France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Entre la fin des années Bush et l'irruption de Donald Trump sur la scène politique des États-Unis en 2015, la droite américaine a vécu un moment de flottement assez singulier. Défaite par les succès électoraux de Barack Obama, elle s'est refaite par la base et notamment par les combats militants d'une minorité radicale, le Tea Party, mouvement anti-État et anti-impôt, dont le nom même est une référence à un célèbre épisode de la Révolution américaine. Quel poids avait à l'époque ce mouvement ? Quelles filiations intellectuelles et politiques revendiquait-il avec les mouvements historiques de l'ultra-droite ? Que signifiait son apparition dans l'Amérique des années Obama ? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans ce numéro de Concordance des temps par Jean-Noël Jeannonet qui recevait pour en discuter André Caspi. C'était le 2 octobre 2010.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Je vous le dis à tous, si par malheur l'homme pensait qu'il descendait bête, il demeurerait une bête. Ainsi que le jeune loup se tourne contre le vieux, ces innocents filles, corrompus et dépourvus d'espoir, se retourneraient contre leur père. Et nous retomberions au temps de Sodome et Gomorre, de la peste, du feu, de la haine et de la mort.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannonet. Bonjour. Je ne suis pas sûr que tous les Français, quelque curieux qu'ils soient des États-Unis, quelque attentifs qu'ils soient à la genèse de leur singularité, quelque préoccupés qu'ils soient du poids de leur passé sur leur réaction et leur sensibilité actuelle, que tous les Français, dis-je, et même les plus savants d'entre eux, c'est-à-dire bien sûr nos auditeurs, aient exactement compris ce que signifie aujourd'hui l'intitulé du mouvement « Tea Party ». Un mouvement lancé au début de 2009 et qui, un an plus tard, un peu plus d'un an, a réussi à rassembler plus de 100 000 manifestants, semble-t-il, à Washington, portant le message d'une droite militante et passionnément hostile à la présidence de Barack Obama. Tea Party, un intitulé qui renvoie à un événement survenu en décembre 1773. Éclairer ce rebond de la mémoire va nous conduire à réfléchir ce matin à diverses émergences, à divers avatars au sens propre du terme, de cette droite dure aux États-Unis de génération en génération. Réfléchir aux formes de son combat, aux ressorts de ses succès comme de ses déconfitures. Nous allons le faire avec André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne, que j'ai déjà plusieurs fois convié à ce micro parce qu'il est un historien réputé de l'Amérique et qu'il est aussi soucieux que nous de comprendre comment elle peut être travaillée par la permanence de pulsions profondes que dissimulent parfois les plus superficielles émotions.
President Obama, can you hear us now?
We carry a great responsibility to our founders and to our children and grandchildren. We owe a great debt to those that fought so bravely for the principle of government by the people. So do not grow weary in our endeavor. Do not give up. Stay the course so that America will once again be in the hands of her people. It all starts with you and me. You can become a united voice echoing through the halls of Congress, shouting, we've had enough. You can know the issues. You can alert others. You can restore America. You can lead us to victory. You are a Tea Party leader.
I am the Tea Party leader.
I am the Tea Party leader.
I am the Tea Party leader.
Welcome to Tea Party across America.
André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre un spot télévisé, le son d'un spot télévisé qui est passé récemment, en septembre 2010, qui est passé récemment sur les télévisions américaines, avec en particulier la voix d'Herman Cain, qui est président de The New Voice, un des aspects les plus importants, les plus notoires de ce mouvement des Tea Party. Et le spot se place sous les auspices de Samuel Adams, qui était un des grands personnages de l'indépendance des colonies américaines, et qui dit il n'est pas besoin d'une majorité pour l'emporter, mais plutôt d'une minorité sans repos, en colère, qui est attachée à faire surgir des feux de fureur dans l'esprit du peuple. C'est l'esprit général de ce spot. Les principes généraux du combat doivent être créer une responsabilité fiscale, de limiter le gouvernement constitutionnel, assurer la liberté du marché, le free market. Enfin, on est là au cœur d'une certaine tradition de la droite américaine.
C'est-à-dire que le Tea Party, qui est né l'année dernière, tient une place d'autant plus importante que depuis quelques mois, la popularité du président Barack Obama a baissé. Certes, le président a remporté des succès, notamment le vote de cette loi sur le système de santé, mais les membres du Tea Party protestent précisément contre cette loi. Voilà un premier point. Ils protestent également contre le déficit abyssal, il faut bien le reconnaître, du budget fédéral. La dette s'accroît dans des proportions considérables et les membres du Tea Party estiment que tout cela va à l'encontre même de ce qui constitue les fondements de la démocratie américaine. Ils voudraient, pour être direct, ils voudraient que toutes les lois qui sont votées par le Congrès puissent être confirmées par un aspect de la Constitution des États-Unis. C'est-à-dire, si la Constitution des États-Unis permet d'aller dans ce sens, la loi est juste. Si c'est contraire à la Constitution des États-Unis, la loi n'est pas juste.
J'ai observé dans ce spot que nous venons d'entendre des références explicites ou implicites au passé. Les pères fondateurs, nous allons en dire un mot, mais même l'expression « we can » qui est reprise et qui renvoie évidemment au slogan de campagne de Barack Obama. Et puis le mot « enough » aussi qu'il ne faut pas négliger.
Il y a en effet deux références au passé. Mais l'une est au passé récent, c'est-à-dire « you can ». Alors que Barack Obama disait « we can ». Ça veut donc dire qu'il y a une possibilité très forte pour que le peuple prenne la parole, pour que le peuple obtienne ce qu'il souhaite. Ça veut donc dire que le retour à la source populaire est indispensable dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le cas de Barack Obama comme dans le cas du Tea Party. Et quant à l'expression « nous en avons assez », cela renvoie sans doute aux élections législatives de 1946, lorsque les républicains faisaient campagne contre les démocrates. Les démocrates détenaient la majorité aussi bien au Congrès qu'à la Maison-Blanche depuis 1932. Donc ça voulait dire depuis 14 ans, le pays était gouverné par des démocrates.
Donc Truman, qui était le successeur, le vice-président de Roosevelt, qui était à la Maison-Blanche.
Exactement. Démocrate. Et donc les républicains essayaient d'obtenir cette majorité, et d'ailleurs l'ont obtenue en 1946, avec ce slogan très simple, je dirais même un peu simpliste, « had enough », c'est-à-dire « est-ce que vous en avez assez ? Si vous en avez assez, votez pour nous ».
Je voudrais que nous nous arrêtions un bref instant sur ce Tea Party contemporain pour nous demander quelle interprétation, sous la lumière de l'histoire, on peut en donner, parce que les observateurs en proposent plusieurs. Certains voient simplement dernière apparition, dernier avatar d'une droite qui militante incarner le Parti républicain et qui reprend les thèmes généraux que nous avons entendus dans ce spot. La réduction drastique du déficit budgétaire, on parle de hold-up générationnel, puisqu'il s'agit de faire peser sur les enfants et petits-enfants le poids de la dette, refus de tout nouvel impôt, dénonciation des programmes d'assistance sociale, évidemment, défense d'une politique étrangère moins accommodante à l'égard des ennemis de l'Amérique, avec une tonalité assez fortement religieuse, évidemment ultra-patriotique.
Oui, ce qui est très curieux, c'est que ce mouvement conservateur s'appuie sur la tradition révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle fait référence à tout coup à la révolution qui a permis aux colonies anglaises d'Amérique du Nord de devenir les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, cela nous renvoie à 1773 pour la notion de Tea Party et à 1776 pour la déclaration d'indépendance. C'est-à-dire que c'est un retour aux fondamentaux. Retour aux fondamentaux, c'est-à-dire au temps où l'Amérique n'était pas enserrée dans une série de règlements, au temps où l'Amérique n'était pas une grande puissance industrielle, au temps où l'Amérique respectait les principes religieux qui étaient ceux du XVIIIe siècle et qui étaient manifestement les principes protestants. Donc c'est un mouvement qui n'est pas simplement protestant, parce qu'on retrouve aussi des catholiques ou des juifs conservateurs dans ce mouvement, mais avant tout, c'est la volonté de retrouver l'esprit primitif de l'Amérique telle qu'elle s'est constituée sur le plan politique à la fin du XVIIIe siècle. Alors, est-ce que c'est de droite ou de gauche? De toute évidence, aujourd'hui, c'est malgré tout un mouvement conservateur. Je ne dis pas que c'est un mouvement réactionnaire, mais c'est un mouvement très conservateur qui s'appuie sur la nécessité de réduire le rôle du gouvernement fédéral.
Par là, c'est réactionnaire, c'est retour en arrière au sens propre.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est un retour en arrière.
Sécurité sociale aussi, quand on réclame qu'on revienne en arrière sur les réformes contemporaines.
Oui, mais en même temps, cela correspond à un désir qui est partagé par un certain nombre d'Américains. La question, c'est de savoir quelle est l'influence réelle de ce mouvement. C'est très difficile à dire. Mais on est précisément dans une période où on voit pouvoir l'estimer. Pourquoi ? Parce que début novembre, il y a des élections législatives aux États-Unis, et si l'on parle tant du Tea Party aujourd'hui, c'est précisément parce que un certain nombre de candidats, parfois même de candidats à la candidature, se présentent sous l'égide du Tea Party.
Ils ont gagné des primaires du côté républicain.
Bien sûr.
Pour les postes de gouverneur ou de sénateur.
Et c'est-à-dire que c'est une manière de s'opposer au Parti démocrate. Et en même temps, c'est une manière de reconstituer le Parti républicain, parce que ce Parti républicain a été fortement diminué dans son influence en 2008, aux élections législatives et présidentielles de 2008.
Avec la défaite de John McCain et de sa potentielle vice-présidente, Sarah Palin.
Et c'est-à-dire que depuis cette élection, les Républicains n'ont plus la possibilité d'agir d'une manière très efficace au Parlement, que ce soit à la Chambre des représentants ou au Sénat. Une manière de retrouver leur place, c'est précisément de prendre en charge cette revendication populaire qui se manifeste sous la forme du Tea Party. Cela dit, tous les républicains ne sont pas membres du Tea Party. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pratiquement tous les membres du Tea Party se rattachent à la tradition républicaine.
Pour vous ramener au cœur de l'Amérique et de l'Amérique du XVIIIe siècle dont nous allons parler pour commencer, écoutons cette chanson tirée d'un des films des studios Walt Disney qui met en scène un personnage très connu dans l'inconscient collectif américain et qui s'appelle Johnny Tremaine. On y chante la chanson « Liberty Tree ».
Pay the price they're asking, boys, always pay the tyrant's fee. Never give up the struggle, boys, fight for the Liberty Tree. It's a tall old tree and a strong old tree. And we are the sons, yes, we are the sons of liberty. Stand for the rights of man, boys, stand against all tyranny. Hang the lights of freedom, boys, high on the Liberty Tree. It's a tall old tree and a strong old tree.
The Liberty Tree, l'arbre de la liberté, un extrait du film John Tremaine de Robert Stevenson qui date de 1957. Et cette chanson évoque naturellement la The Tea Party puisque elle parle de cet arbre de la liberté qui est un chêne et dont les racines sont irriguées par du thé. André Caspi.
Alors c'est un peu compliqué à expliquer, c'est à la fois de l'histoire et la mémoire collective.
Je ne doute pas que vous y parveniez.
Je vais essayer. Ça nous renvoie à la période révolutionnaire. C'est en 1763, les Anglais sont maîtres de l'Amérique du Nord, ils ont chassé les Français. Mais immédiatement se crée un différend de plus en plus profond entre les colons d'Amérique et la métropole anglaise. Et cette divergence tient avant tout au prix qu'a coûté la guerre contre les Français. Il faut donc remplir les caisses royales, et pour remplir les caisses royales, il faut de nouveaux impôts ou de nouveaux droits de douane. Et c'est contre ces impôts et ces droits de douane que protestent les colons américains. Ils estiment qu'ils n'ont pas à payer parce qu'ils ne sont pas représentés au Parlement de Londres, c'est-à-dire que d'un conflit fiscal, on passe à un conflit politique, et d'un conflit politique à un conflit constitutionnel, même si l'Angleterre n'a pas de constitution. Ça veut donc dire qu'à partir de 1765, les protestations des colons suivent les protestations des colons. D'année en année, il y a des mouvements de révolte qui se manifestent en Amérique.
Chaque fois qu'il y a un nouveau droit, une nouvelle taxe, c'est peut-être sur les timbres.
Par exemple, en 1765, c'est sur les timbres.
Sur le sucre.
L'année d'avant, c'était sur le sucre. Il y aura, en somme, régulièrement des mouvements de protestation, y compris d'ailleurs en 1773, parce que là, c'est sur le thé que porte la protestation, puisque la Compagnie des Indes orientales bénéficie de la possibilité de vendre du thé dans les colonies, et c'est sur ce thé que sera perçu un droit, alors que dans la métropole, le droit n'est pas perçu. Ce qui fait donc que les colons américains protestent contre les cargaisons de thé qui pénètrent dans le port de Boston.
Nous y voilà.
Et, déguisé en indien Mohawk, un groupe de colons monte à bord de ces bateaux de la Compagnie des Indes orientales et jette le thé à la mer. C'est ce que l'on appelle la Tea Party. Ça date de décembre 1773, c'est-à-dire qu'on est là 2 ans et demi avant la proclamation de l'indépendance, et on voit bien que c'est un mouvement qui va déboucher sur la création d'un État nouveau qui s'appellera les États Unis d'Amérique. Je fais exprès de ne pas faire la liaison, parce que en 1776, lorsque la déclaration d'indépendance est adoptée, ce sont les 13 colonies qui deviennent les 13 États. Ces 13 États s'unissent, mais ils ne constituent pas encore une véritable nation. Cette nation, elle attendra pour se constituer une soixantaine, même davantage, une soixantaine d'années, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle.
Alors, il me semble qu'on comprend mieux pourquoi les activistes de droite ou de droite dure d'aujourd'hui aux États-Unis se réfèrent à cette Tea Party.
Oui, c'est une protestation populaire.
Il y a le fisc d'abord, oui. Le refus du fisc qui est permanent. Il y a aussi cette idée d'une dispersion, finalement, de l'action. Elle n'est pas centralisée, pas plus qu'aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire, en même temps, on retrouve le mot qui figure dans la chanson que l'on vient d'entendre, c'est le mot « tyrannie ». C'est-à-dire que Londres exerce une tyrannie sur les colonies. Pourquoi une tyrannie ? Parce que les colonies ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'elles n'envoient pas de représentants à Londres. C'est-à-dire que, au fond, ce que les Américains de l'époque veulent montrer aux Anglais, c'est que eux, les Américains, ils respectent l'esprit de cette constitution anglaise, constitution qui n'est pas écrite, je le répète, mais qui est malgré tout une série de précédents, finalement, les Américains disent aux Anglais, nous sommes plus anglais que vous, vous avez renoncé aux principes qui ont fait l'Angleterre, Par conséquent, vous exercez une tyrannie sur les colonies, et parce que vous exercez une tyrannie sur les colonies, nous avons le droit de nous rebeller et de manifester notre indépendance à votre égard.
En leur disant, je fais appel contre vous des textes glorieux que vous avez élaborés, en particulier le Bill of Rights.
Le Bill of Rights et bien entendu tous les textes qui font partie, si l'on peut dire, de la mémoire constitutionnelle de l'Angleterre. C'est toujours très difficile quand on parle de l'Angleterre parce que parfois on utilise le mot constitution et parfois on ne l'utilise pas. Mais je répète pour la deuxième fois que l'Angleterre n'a pas de constitution.
Oui, ça, on a
à
bien
l'époque,
compris.
Elle n'en a toujours pas.
On a bien compris. Mais on peut se référer à la glorieuse révolution.
C'est-à-dire celle de 1689.
C'est ça qui a abouti à un changement de souverain, qui a chassé le roi Jacques II pour le remplacer par sa fille Mary,
et son gendre William, et qui, par conséquent,
représente un moment lumineux aux yeux des Anglais, et plus encore aux yeux des Américains, qui dit à Londres, n'oubliez pas quel est l'héritage qui est le vôtre. Alors on retrouve un certain nombre de ces personnages majeurs qui vont, à ce moment-là, marquer ce qu'on peut appeler le versant radical de la protestation. Au début, il y a des comportements plus modérés et d'autres plus radicaux, où se distingue Samuel Adams, que nous avons déjà évoqué, ou Patrick Henry.
C'est-à-dire Patrick Henry est un Virginien qui, en 1774, a franchi le pas. Il déclare en public « Je suis un Américain ». Ça, c'est une notion nouvelle.
Et non pas un Virginien.
Voilà. Je suis Virginien, peut-être, mais je suis un Américain, c'est-à-dire que toute la revendication des colonies depuis le Massachusetts jusqu'à la Géorgie, toute cette revendication, je la prends à mon compte. Il y a des intérêts communs qui unissent les 13 colonies et qui feront de ces 13 colonies un État. Donc nous avons des intérêts communs qui sont différents des intérêts de l'Angleterre. Alors c'est une position radicale à l'époque. Elle n'est pas adoptée par la majorité des colonies. Elle le sera 2 ans plus tard. Il faut un certain temps pour que les esprits mûrissent, pour que cette revendication prenne corps.
C'est bien ce que disent aujourd'hui des dirigeants du Tea Party qui disent on commence, mais tout ça va se développer, les Américains vont nous suivre, et dans quelques temps, ils vont rejoindre et nous deviendrons, minorité que nous sommes, une brillante majorité.
Et nous serons renseignés, sans aucun doute, au début de novembre, avec le résultat des élections législatives.
Je crois qu'on comprend mieux maintenant pourquoi, avec un sens de la longue durée et une capacité de référence au passé, naturellement instrumentalisée, pourquoi ce mouvement de la droite dure aujourd'hui s'intitule Tea Party.
Oui, et encore une fois, c'est un peu paradoxal de constater qu'un mouvement conservateur fait référence à une idéologie révolutionnaire. Mais c'est une idéologie révolutionnaire du XVIIIe siècle, et en ce sens, ça peut être le soubassement du mouvement conservateur. C'est un retour en arrière, mais un retour aux principes fondateurs.
Alors, je voudrais que nous avancions dans le temps pour en venir à un autre moment essentiel où on a eu le sentiment que les lignes se brouillaient quelque peu lorsque les deux partis, républicains et démocrates, face à face, ont été porteurs l'un et l'autre de l'esprit du mouvement et de l'esprit de l'ordre établi. Je veux dire, après la guerre de sécession, nous sautons, si vous voulez bien, André Caspi, 2 générations, puisque au moment de la guerre de sécession, de Lincoln, on peut avoir le sentiment que c'est le parti républicain, le vieux parti, le Great Old Party, qui porte le mouvement, c'est-à-dire la fin de l'esclavage.
D'autant plus que le parti républicain, au temps de Lincoln, c'est un parti nouveau. Il a été créé en 1854. Tandis que le Parti démocrate, lui, remonte à Jefferson, c'est-à-dire à la fin du 18e, début 19e siècle. Le Parti démocrate est d'ailleurs beaucoup plus solidement implanté dans les États esclavagistes. Le Parti républicain, lui, n'y figure pas. N'oubliez pas que Lincoln a été élu régulièrement, mais sans obtenir de majorité dans les États du Sud, c'est-à-dire dans les États qui font sécession. Lincoln, c'est avant tout l'expression d'une Amérique qui veut non pas libérer les esclaves, parce qu'au début de la guerre de sécession, il n'en est pas question, mais enfin, du moins, qui veut maintenir l'union et surtout empêcher l'extension de l'esclavage. Un peu plus tard, ça sera de supprimer l'esclavage. Et en même temps, l'expression d'une Amérique industrielle qui veut développer son économie, exporter, devenir une très grande puissance. Et de ce point de vue-là, le Parti républicain, c'est le parti du progrès, au temps de Lincoln.
D'ailleurs, il est curieux d'observer, pour montrer que les choses sont complexes, d'un point de vue historique, que c'est devant la statue de Lincoln que Obama a choisi symboliquement d'annoncer sa candidature à la présidence des États-Unis d'Amérique.
Et la statue de Lincoln, c'est aussi là, devant cette statue, que Martin Luther King a prononcé son discours du 28 août 1963, dans lequel il fait un rêve. Il ne dit pas « j'ai fait un rêve », il dit « je fais un rêve » qu'un jour, les deux races, la blanche et la noire, marcheront main dans la main et que mes enfants pourront aller dans la même école que les enfants blancs. Ce n'est pas donc tout à fait par hasard que les membres du Tea Party ont choisi la date du 28 août 2010, le Lincoln Memorial à Washington, comme Martin Luther King. Ce n'est pas non plus par hasard qu'ils ont obtenu l'accord de la nièce de Martin Luther King, qui est elle-même ministre du culte, mais qui ne partage pas tout à fait les idées de son oncle défunt. On peut dire que le Tea Party s'inscrit dans l'histoire des États-Unis tout en la déformant, c'est-à-dire tout en l'aménageant dans le sens des revendications qui sont les siennes.
J'observe que ce n'est pas la même statue de Lincoln, pour être très précis dont nous parlions, puisque Martin Luther King, c'est à Washington et que Obama est allé chercher le patronage posthume de Lincoln dans l'Illinois.
Oui, parce que Obama est un élu de l'Illinois.
Bien sûr, Chicago est fondamental.
Mais il est évident que ce discours du 28 août 2010 devant le mémorial de Lincoln a une résonance symbolique particulièrement forte. Et d'ailleurs, les partisans de Martin Luther King ont protesté avec force contre cet accaparement de la légende de King par le Tea Party et également par la nièce de Martin Luther King.
Oui, ça a beaucoup agité les esprits, voici quelques semaines, effectivement, à ce moment-là. Et même, ça a conduit un des dirigeants du Tea Party à dire « Tiens, tiens, je n'avais pas réfléchi que c'était ce jour-là. » On ne l'a pas vraiment cru.
Oui, sauf que la manifestation a été préparée un an à l'avance. Alors, je crois qu'il avait le temps de réfléchir.
Alors, nous sommes maintenant, André Caspi, dans les décennies qui suivent la guerre de sécession, au moment où on voit ressurgir un parti populiste qui peut apparaître lui aussi comme un ancêtre du Tea Party d'aujourd'hui, avec un certain nombre de personnalités comme Bryan, qui est un leader populiste. Face au Parti démocrate et républicain, un certain nombre de forces viennent dire « nous ne sommes pas satisfaits de cette expression de notre volonté politique, il faut inventer autre chose qui revienne aux racines de l'Amérique de toujours ».
Alors, le parti populiste de la fin du 19e siècle a d'autres revendications que le Tea Party d'aujourd'hui. C'est essentiellement, pour les populistes, la revendication de l'Ouest contre l'Est. L'Ouest qui souffre de la crise économique, l'Ouest qui souffre du monométalisme de fait, d'un dollar qui est essentiellement gagé sur l'or au lieu d'être gagé sur l'argent.
Et sur l'or.
Et sur l'or, ce qui permettrait éventuellement aux dettes d'être plus facilement remboursé, puisque le dollar serait dévalué.
Et ça intéresse directement les fermiers, qui sont largement endettés du côté de l'Ouest.
Et en même temps, ces fermiers protestent contre l'Est, parce que l'Est, disent-ils, est dominé par les banquiers. Donc, c'est une revendication de l'Ouest contre l'Est, c'est une revendication des fermiers ou de l'Amérique rurale contre l'Amérique urbaine, c'est une revendication en même temps contre cette culture de l'enrichissement qui se manifeste sur la côte atlantique, alors qu'on est dans une culture de l'appauvrissement dans les montagnes rocheuses ou dans les grandes plaines.
Avec une critique du capitalisme qui peut, à certains égards, apparaître comme moderne, comme ayant des échos aujourd'hui.
Oui, dans un certain sens. Il n'y a pas cette idée de lutte des classes, mais il y a en même temps cette idée d'un capitalisme qui est sauvage, qui ne respecte pas les règles, qui n'a rien d'humaniste. C'est ce que disent notamment les populistes et en particulier leur porte-parole qui s'appelle William Jennings Bryan.
C'est lui qui a eu cette formule que maintenant nous comprenons mieux après vous avoir écouté. Nous ne laisserons pas l'humanité être crucifiée sur une croix d'or.
Et nous ne laisserons pas non plus, dit-il, nos villages disparaître au profit de ces villes de l'Ouest dans lesquelles règne la corruption. Et en même temps, toutes sortes de mots, parce que le populisme, c'est aussi quelque chose de moral, hein. Il y a aussi un aspect religieux, et en particulier Bryan, lui, qui est très sensible à cette culture religieuse, ne manque pas de souligner que, à l'Est, ce n'est pas la morale qui règne, mais c'est au contraire toutes les ruptures avec l'esprit traditionnel et religieux qui est à la base des États-Unis.
Alors il y a cet aspect des choses à l'époque, et puis il est significatif que ce soit le temps aussi où surgisse le Ku Klux Klan.
Alors le Ku Klux Klan, lui, il surgit juste après la guerre de sécession.
1866.
Oui, c'est une réaction contre la libération des esclaves. Dans le Sud, le Ku Klux Klan d'ailleurs est limité dans le Sud hein, à cette époque. Dans le Sud, un certain nombre de Blancs refusent l'idée que les esclaves deviennent des hommes libres. Ils s'unissent sous une forme folklorique, avec les robes, avec les bonnets, avec toutes sortes d'appellations qui relèvent d'un vocabulaire ésotérique. Ils s'unissent pour faire peur aux Noirs et pour les empêcher d'accéder à une position d'égalité. D'ailleurs, les Noirs ne sont pas, à cette époque-là, véritablement les égaux sur le plan politique, parce que dans la plupart des États du Sud, les moyens les plus fantaisistes sont trouvés pour les empêcher d'aller voter.
Et les plus brutaux.
Et ce qui explique que les Noirs ne trouveront véritablement la voie vers les urnes sans aucune limite beaucoup plus tard, au tout début des années 60 du XXe siècle. C'est-à-dire au temps de la présidence de Kennedy.
Et de Lyndon Johnson.
C'est aussi une époque, d'ailleurs, où la ségrégation raciale s'étend à tous les États du Sud. Une ségrégation raciale qui vaut du berceau au cercueil. Et qui n'a pas sa contrepartie dans le Nord, parce que dans le Nord, c'est pas la ségrégation raciale légale, mais c'est une ségrégation raciale de fait. Donc, les États-Unis entrent dans une période de ségrégation raciale. Je rappellerai simplement un événement qui me paraît tout à fait révélateur, c'est qu'en 1917-1918, quand les Américains viennent en Europe pour participer à la Grande Guerre, il y a des régiments noirs qui sont distincts de l'armée américaine. Ils sont dans l'armée américaine, et certains d'entre eux sont même prêtés à la France, parce que la France sait traiter ses noirs, dit-on à l'époque.
Oui, les noirs sont surpris de voir la façon dont à Paris ils sont traités, de pouvoir s'asseoir aux terrasses des cafés en même temps que les soldats blancs.
Et on retrouve la même chose en 1944. En 1944, l'armée américaine est encore ségrégée. La ségrégation dans l'armée disparaît en 1948. Donc c'est vous dire que cette ségrégation raciale marque profondément les États-Unis entre la guerre de sécession et puis l'arrivée au pouvoir de Kennedy et surtout de son successeur, c'est-à-dire de Johnson.
Sur la permanence du Ku Klux Klan dont nous parlons, jusque tardivement, jusque dans les années 60, les années Kennedy, je vais vous faire entendre cet extrait de journaliste Michel Texier sur des attentats du Klan à Birmingham, en Alabama. On est en mai 1963.
En Alabama, on a dit trop tôt que les choses s'arrangeaient, dit trop tôt que l'accord s'était fait pour ouvrir aux Noirs les portes qui leur étaient fermées. La nuit dernière, à Birmingham, des hommes au visage barbouillé de noir de fumée ont jeté depuis une voiture des bombes contre le domicile du frère de Martin Luther King, le leader des intégrationnistes noirs. Bombe aussi contre un motel qui avait servi de QG aux dirigeants du mouvement antiracial. Bilan, 4 blessés, la conséquence, des manifestations immédiates des Noirs, des pierres contre la police. Bref, dans le Vieux Sud, en Alabama, il y a des récalcitrants. Il y a pis, le Ku Klux Klan fait à nouveau parler de lui. Scénario habituel, dans un terrain vague, des centaines de membres de l'association secrète, portant cagoule et robes, se sont réunis à la lumière de deux croix enflammées pour entendre le Grand Dragon. Le Grand Dragon, le nommé Robert Shelton, a dénoncé l'accord d'intégration réalisé entre Noirs et Blancs à Birmingham. Le Ku Klux Klan, cette société secrète qui pendait un Noir de temps en temps pour les terroriser tous, on croyait ça disparu. Et il faut croire que non. Le racisme mène à des extrémités qui sont la honte des hommes.
Il y a une permanence des attitudes racistes, en tout cas au XXe siècle. D'ailleurs, aux rencontres photographiques d'art l'année dernière, on a vu une exposition très impressionnante, pour ne pas dire terrifiante, qui était une collection de cartes postales de l'entre-deux-guerres où on voyait des lynchages de noirs avec des faces réjouies de fermiers blancs tout autour.
Le Ku Klux Klan de 1866 a disparu 4 années plus tard, à partir de 1870, il n'existe plus. Mais il renaît de ses cendres en 1915 et surtout dans les années 1920 et 1930. Et à ce moment-là, ça n'est plus un clan qui est limité aux États du Sud, c'est un clan national. Il disparaît de nouveau avec la Seconde Guerre mondiale et il reparaît sous une autre forme dans les années 50 et 60, c'est-à-dire qu'il devient à ce moment-là un mouvement d'extrême droite, hostile aux Noirs bien sûr, hostile aux catholiques parce que c'est un mouvement protestant, hostile aux Juifs, hostile aux communistes, c'est-à-dire qu'il a pris des formes différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce que le clan ? Je dirais que le clan n'existe pas. Il y a les clans, car le Ku Klux Klan est un groupuscule, lui-même divisé en multiples branches qui se détestent les unes les autres, mais qui peuvent éventuellement faire du bruit et des dégâts parce que ce sont des adeptes de la violence.
Le mouvement du Tea Party est donc tout autre chose, même si peut-être on doit y
aucun rapport.
Aucun rapport. Aucun, il ne faut pas confondre. Alors j'en viens maintenant à ce fameux procès du singe dans les années 20, qui a vu ressurgir le Bryan dont nous parlions tout à l'heure, à l'extrême fin de sa vie, et qui a continué dans sa fidélité à une tradition à venir défendre des positions très conservatrices. Vous allez nous expliquer ça, André Caspi.
Ah, le procès du singe, ça se passe dans l'État du Tennessee. C'est-à-dire que l'État du Tennessee avait voté une loi suivant laquelle les professeurs de sciences naturelles devaient enseigner l'évolution, telle que Darwin l'a définie, et en même temps le créationnisme, c'est-à-dire le fait que ce soit Dieu qui ait créé l'homme. Un professeur de sciences naturelles a décidé de voir si cette loi était vraiment applicable. Et dans sa classe, en présence des représentants des médias, il a donc annoncé que l'homme n'avait pas été créé par Dieu, et peut-être pour provoquer davantage que l'homme descend du singe. Alors évidemment, cela a déclenché une action judiciaire, et ce procès du singe avait pour but de défendre la loi du Tennessee. Le principal avocat était en effet William Jennings Bryan, qui à ce moment-là avait pris de l'âge, parce qu'on est en 1925.
Pris de l'âge, mais gardé ses convictions.
Très fortes, mais des convictions évangélistes, c'est-à-dire très vivement conservateurs. Et en face de lui, il y avait les défenseurs de la modernité, notamment l'avocat Clarence Darrow. C'est pour cela que ce procès s'est déroulé et que le professeur de sciences naturelles a été condamné.
Ça paraît étrange, mais il avait nié le fait que l'homme a été créé en 8 jours.
Oui, et c'est-à-dire qu'il a été condamné parce que il avait violé la loi du Tennessee. Mais il a été condamné à une amende de $100 qui n'a jamais été perçue.
Alors je vais vous faire entendre un extrait d'un film qui est inspiré de ce procès du singe, un film de Stanley Kramer qui est sorti aux États-Unis en 1960. Et on entend l'avocat qui va porter le fer contre le professeur de sciences naturelles au moment où il arrive dans la ville et va développer pour la première fois sa thèse.
Vous savez ce qui m'a amené? Il ne s'agit pas uniquement d'engager le procès d'un homme jeune qui a porté atteinte à la parole révélée. Je suis venu ici parce que ce qui s'est passé dans le collège de votre ville a déclenché l'attaque perfide des grandes cités du Nord. Cette guerre, nous ne la cherchions pas. Nous restons des gens simples. Nous ne cherchons qu'à vivre dans la paix, à chérir ce que nous aimons, à enseigner à nos enfants les voies toujours droites du Seigneur. Mais que leur enseignerait-il, eux, les idolâtres, tous ces prêtres de l'évolution? Que les inciterait-il à faire? Il leur ferait mesurer la distance entre les étoiles et oublier celui qui les tient dans sa droite. Ils se sont fourvoyés. Je vous le dis à tous, si par malheur l'homme pensait qu'il descendait bête, il demeurerait une bête. Ainsi que le jeune loup se tourne contre le vieux, ces innocents petits, corrompus et dépourvus d'espoir, se retourneraient contre leur père. Et nous retomberions au temps de Sodome et Gomorre, de la peste, du feu, de la haine et de la mort.
Nous avions récemment, avec Denis Lacorne, regardé de plus près ce procès vraiment extraordinaire, vu d'Europe, vu de France, et nous avions constaté que l'esprit créationniste, à peine amendé, persistait jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on le retrouverait dans le mouvement du Tea Party?
Certainement. Par exemple, Sarah Palin est créationniste. C'est-à-dire qu'elle estime que c'est Dieu qui a créé le monde.
L'ancienne gouverneure de l'Alaska, l'ancienne numéro 2 du candidat McCain.
Et Sarah Palin a été l'invitée d'honneur de ce grand rassemblement du Tea Party du 28 août 2010. Il est vrai que cette invitée d'honneur s'est fait payer 100 000 dollars pour prononcer son discours. Donc c'est une invitée d'honneur qui a aussi le sens de sa valeur, ou de sa valeur marchande, si l'on peut dire. Mais il va de soi que le créationnisme correspond aujourd'hui à un mouvement qui n'est pas négligeable dans certains États des États-Unis. Et comme l'enseignement est déterminé par chacun des États, on peut trouver dans certains États des dispositions législatives qui autorise l'enseignement des deux doctrines, c'est-à-dire l'évolutionnisme et le créationnisme.
Face à face.
Face à face, oui. C'est-à-dire qu'en fait, un professeur doit dire que l'évolutionnisme, c'est une théorie, mais que ça n'est pas la seule, et qu'il peut y en avoir une autre.
Un des orateurs les plus écoutés de ce mouvement du Tea Party aujourd'hui, Glenn Beck,
oui,
est un animateur de la fameuse télévision très marquée à droite, Fox News. Et c'est un ancien alcoolique. Il vient expliquer que Dieu l'a aidé à sortir de son péché. C'est très, très américain à cet égard. Et ça nous reconduit vers le rôle de la prohibition aussi dans l'histoire de cette droite extrême qui a réussi à ce moment-là à imposer cette interdiction de l'alcool.
Alors là, nous remontons aux années 20.
C'est-à-dire du procès du singe.
À partir de 1919-1920, le mouvement prohibitionniste devient national. Auparavant, il y avait déjà, dans tel ou tel État, une législation contre la vente des alcools. On peut faire remonter ça, d'ailleurs, même au milieu du 19e siècle. Et c'était une revendication que nous appellerions, nous, de gauche. C'est-à-dire une revendication pour protéger les ouvriers. L'ouvrier qui, une fois son salaire empoché, pouvait avoir tendance à aller, non pas au café parce que ça n'existe pas aux États-Unis, mais au saloon ou au cabaret. Et là, il consommait de l'alcool et dépensait une grande partie de son argent, c'est-à-dire au lieu d'en faire profiter sa famille, c'était le vice qui en tirait parti.
L'assommoir, aurait dit Zola.
Voilà. Je dirais que c'est aussi une revendication de gauche parce que le mouvement féministe était partisan de la restriction des ventes d'alcool, puisque c'était une manière de protéger les femmes contre un vice qui touchait surtout les hommes.
Et qui aboutissait souvent à les faire battre, d'ailleurs.
Et en tout cas, à ruiner la famille. Mais à partir des années 1910-1915, c'est une revendication qui va passer à droite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les patrons, les industriels, constatent que la consommation d'alcool empêche la productivité. Donc il faut éviter que les ouvriers boivent, parce que s'ils boivent, ils travaillent moins bien.
C'est un tout autre ressort que précédemment.
La Première Guerre mondiale va encore renforcer cette tendance, parce que un soldat qui boit ne combat pas, ou combat mal, contrairement bien sûr à la pratique de l'armée française qui avait tendance à distribuer du pinard, comme on disait, ou de l'agneau, pour que les soldats ne se rendent pas compte de la cruauté des combats. Dans l'armée américaine, au contraire, il ne faut pas boire. Donc tout cela aboutit au renforcement de cette législation sur la tempérance et à l'adoption d'un amendement constitutionnel. Par conséquent, cela vaut pour tous les États de l'Union. En 1919, avec application en 1920, c'est-à-dire que désormais, la fabrication, le transport, la vente des alcools sont interdits sur le territoire américain.
Mais ce regard moral se retrouve assez largement aujourd'hui dans l'ensemble de la thématique explicite ou sous-jacente du mouvement du Tea Party.
C'est-à-dire que ce mouvement prohibitionniste, on disait que c'était un mouvement sec.
Contre les mouillés.
Au mouvement mouillé. Donc, j'ajouterais qu'il y a une autre dimension. On n'en finit pas d'en trouver des dimensions. Une autre dimension, c'est que qui a l'habitude de boire du vin? Les Italiens. Qui a l'habitude de boire du whisky? Les Irlandais. C'est-à-dire qu'il y a un côté anti-immigré, parce que les Italiens et les Irlandais sont des immigrés à l'époque, et surtout les Italiens des immigrés récents. Donc on considère que restreindre la vente d'alcool, l'interdire, c'est empêcher que les mœurs de ces immigrés ne viennent pénétrer dans la société américaine, la transformer et lui nuire.
Alors c'est donc précisément le moment où les lois sur l'immigration deviennent beaucoup plus restrictives.
Exactement.
Dans ces années-là.
C'est-à-dire qu'on retrouve, si vous voulez, cette révolution, on peut parler d'une révolution, une révolution conservatrice qui est manifeste dans l'Amérique rurale, contre cette Amérique urbaine, contre l'Amérique moderne, et qui aboutit à l'interdiction de l'alcool. C'est la prohibition. Elle dure jusqu'en 1934, parce qu'en 1934, à ce moment-là, un nouvel amendement à la Constitution supprime le premier de ces amendements. Donc la prohibition disparaît en 1934, libre aux États d'instaurer une législation qui vaut pour l'État ou qui vaut éventuellement pour telle ou telle ville. Aujourd'hui encore, il y a des lieux dans lesquels la consommation d'alcool est strictement réglementée.
C'est la fin
et
de
pour
ce
vous
que...
donner un exemple, je me souviens très bien d'un séjour dans une université du Nouveau-Mexique où l'on voulait célébrer mon arrivée, ce qui est très gentil, très honorifique, j'étais très flatté, mais les collègues transportaient les bouteilles de vin sous le manteau, dans les sacs, pour ne pas le faire voir, parce que c'était interdit sur le campus.
C'est effrayant, mais vous avez quand même eu du bon vin, André Caspi.
Ah oui, j'ai quand même bu, grâce à mes collègues.
C'est la fin de ce que le président républicain Hoover avait appelé la noble expérience de la prohibition. Ça n'empêchait pas que Bessie Smith ait chanté dans ces années-là « Moi et mon gin, me and my gin ».
Away from me, 'cause I'm in my sin. Stay away from me, 'cause I'm in my sin. If this place gets raided, it's me and my gin. Don't try me, nobody, 'cause you will never win. Don't try me, nobody, 'cause you will never win. I'll fight the Army, Navy, yes, me and my gin. Any bootlegger show is a pal of mine. Any bootlegger show is a pal of mine. 'Cause a good old bottle of gin will get it all the time. When I'm feeling high, ain't nothing I won't do. When I'm feeling high, ain't nothing I won't do. Keep me full of liquor, and I'll show be nice to you. I don't want no clothes, and I don't need no bed. I don't want no clothes, and I don't need no bed. I don't want no pork chop, just give me gin instead.
Les relations affectueuses et inquiètes de Bessie Smith avec sa bouteille de gin. Nous en venons maintenant, si vous voulez bien, dans cette émission consacrée à l'ultra-droite aux États-Unis jusqu'au mouvement du Tea Party. Nous en venons maintenant, dans le dernier mouvement de notre conversation, nous en venons, André Caspi, à ce moment qui est celui de la fin des années 30, du début des années 40, au moment où, en dépit de Roosevelt, l'Amérique hésite à entrer dans la guerre, et où surgit en particulier en politique la personnalité de Charles Lindbergh, celui qui avait traversé le premier l'Atlantique. Et il y a eu un beau livre récent, une uchronie, une histoire-fiction de Philip Roth qui s'appelle « Le complot contre l'Amérique », qui est paru en 2004, où il imaginait Lindbergh remportant l'élection présidentielle contre Roosevelt en 1940, après une campagne teintée d'antisémitisme et axée principalement sur le refus de voir l'Amérique prendre part au conflit et une hostilité d'ailleurs au socialisme aussi, qui se retrouve très largement dans les manifestations récentes du Tea Party. Il y avait même encore des pancartes contre le communisme. Alors je vais vous faire entendre le fameux discours de Lindbergh, un petit morceau, parce que c'est en anglais, puis vous le traduirez si vous voulez bien ensuite, vous nous en direz l'essentiel, du 11 septembre 1941 à Des Moines, où il s'en prend très très vivement à la politique de Roosevelt.
Une ville d'origine française d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Des Moines.
Hein. Et il s'en prend très très vivement à la politique de Roosevelt et à l'éventualité que l'Amérique rallie le camp des démocraties contre Hitler et les siens, et contre le Japon, bien sûr. On est à quelques semaines avant Pearl Harbor.
In selecting these three groups as the major agitators for war, I have included only those whose support is essential to the war party. If any of these groups, the British, the Jewish, or the administration, stops agitating for war, I believe there will be little danger of our involvement.
Il faut préciser qu'après Pearl Harbor et l'attaque des Japonais contre l'Amérique, Lindbergh changera de point de vue et rejoindra l'armée américaine. Mais on est là en septembre. On est là en septembre, André Caspi, et il est très frappant de voir quels ennemis il désigne.
Oui, c'est-à-dire, il faut dire plusieurs choses. La première, tout d'abord, c'est que, contrairement au roman de Philip Roth, Charles Lindbergh n'était pas candidat à la présidence. Le candidat républicain à la présidence en 1940, c'était Wendell Willkie, qui avait à peu près les mêmes idées sur le plan international que son adversaire démocrate, le président Franklin Roosevelt.
C'est ce qu'on appelle l'histoire-fiction, précisément.
C'est de l'histoire-fiction.
Mais il existait des possibilités.
Mais en revanche, Charles Lindbergh, en effet, dispose d'une grande influence, non seulement parce qu'il a été le premier à traverser l'Atlantique et en 1927, dans son avion, l'Esprit de Saint-Louis, mais aussi parce qu'il a subi un véritable drame, qui est l'enlèvement de son enfant et sa disparition, puisque l'enfant a été tué par le ravisseur.
L'Amérique tout entière en a été bouleversée.
Ce qui fait que Lindbergh est un véritable héros. Et c'est un héros qui prend parti contre la participation des États-Unis à la guerre. Alors, est-ce que les États-Unis participent à la guerre en septembre 1941 ? Non, bien sûr, puisque leur participation est postérieure à Pearl Harbor, c'est-à-dire au 7 décembre 1941. Mais en revanche, les États-Unis ont été très marqués dans les années 30 par l'isolationnisme, la volonté de s'exclure des affaires européennes, parce que les affaires européennes ont été décevantes, parce qu'ils ne sont pas satisfaits des résultats de leur participation à la Grande Guerre. Mais petit à petit, le président Franklin Roosevelt fait un pas en direction des démocraties, et surtout, après l'armistice que la France a signé en juin 1940, le seul pays qui continue la guerre contre l'Allemagne nazie, c'est la Grande-Bretagne. Et là, le président Roosevelt sent qu'il faut absolument aider les Anglais. Alors, toute une série de mesures ont été adoptées à son initiative pour soutenir l'effort de guerre des Britanniques. Et en même temps, juste en face, un groupement, un parti, un mouvement s'est créé pour s'opposer à toute participation des États-Unis à la guerre. C'est ce qu'on appelle le mouvement America First, c'est-à-dire d'abord l'Amérique. C'est l'Amérique qui compte. Les autres pays ne doivent pas être pris en compte. Ils ne doivent pas entraîner l'Amérique dans la guerre. Et c'est pour cela que Charles Lindbergh désigne trois groupes qui constituent ce qu'il appelle le parti de la guerre.
Dans l'extrait que nous avons entendu, c'était très frappant.
Les Britanniques, les Juifs, parce que dans son esprit, les Juifs veulent faire la guerre au nazisme du fait que Hitler fait la guerre aux Juifs.
Mais là, il rejoint d'une certaine façon la doctrine de Hitler qui parle des judéo-capitalistes.
Et troisièmement, l'administration, c'est-à-dire le gouvernement. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Lindbergh avait des liens très étroits avec le régime nazi.
Il avait voyagé en Allemagne nazie.
Et non seulement il avait voyagé en Allemagne nazie, il connaissait bien Göring, mais il avait aussi une famille allemande. C'est-à-dire qu'on sait qu'il menait une double vie, une vie familiale aux États-Unis, une vie familiale en Allemagne nazie. Donc, ce qu'on peut dire en somme, c'est que, dans un certain sens, Charles Lindbergh était le représentant de l'Allemagne nazie dans l'Amérique du début des années 40. Mais à partir de Pearl Harbor, c'est-à-dire à partir du 7 décembre 1941, il va de soi que sa position n'est plus tenable. Et Charles Lindbergh viendra enfin à l'attitude qui convient le mieux, dans son cas, le silence.
Mais Charles Lindbergh ne doit pas cacher l'existence d'autres leaders, d'autres personnages.
Non, bien entendu.
Qui, dans ces années 30, cette dernière résurgence, ou peut-être l'avant-dernière, je ne sais pas, par rapport à notre temps, de cette droite extrême américaine. Il y a eu le fameux Huey Long, qui était un populiste, et qui, s'il n'avait pas été assassiné, serait peut-être conduit un peu loin.
Oui, mais Huey Long n'est pas vraiment la droite extrême. C'est une droite un peu corrompue, c'est une droite mafieuse, c'est un homme d'État, enfin un homme politique plutôt de la Louisiane. Mais je crois que il faudrait plutôt citer un prêtre catholique, qui est le père Coughlin.
Donc il n'y a pas que des protestants dans cette droite extrême.
Et d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement qu'on appelle le maccartisme est mené par Joseph McCarthy, qui est lui-même catholique, et qui recrute dans les milieux catholiques les plus conservateurs.
Dans sa croisade passionnée contre les communistes ou ceux qui pourraient apparaître comme tels.
C'est-à-dire que c'est une renaissance, en somme, de cette droite musclée. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça corresponde à la majorité des Américains. Et je crois d'ailleurs que, pour conclure cette émission, il faudrait quand même bien ajouter que cette droite reste minoritaire. Elle est minoritaire au temps du Ku Klux Klan, puisque le Klan est lui-même condamné en 1869-1870, et que dans les années 20 ou 30, même s'il a de nouveau des succès, il finit par disparaître. Elle est minoritaire également dans les années 30, parce que celui qui est élu et réélu, c'est Franklin Roosevelt. Et les États-Unis entrent en guerre après l'agression japonaise contre Pearl Harbor. Elle est également minoritaire dans les années 60, parce que les grandes réformes du président Kennedy, du président Johnson et même du président Nixon sont des réformes qui ne sont pas acceptées par cette extrême droite pure et dure. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre droite et extrême droite.
Certes pas.
Et ce que nous avons évoqué aujourd'hui, ce sont des groupes, des mouvements qui font parler d'eux parce que ils ont un certain sens des médias. Mais qui ne correspondent pas au sentiment majoritaire que les Américains peuvent exprimer.
Qu'ils soient minoritaires, d'ailleurs, ils le revendiquent eux-mêmes, dans la citation de Samuel Adams que je vous donnais tout à l'heure.
Oui, mais Samuel Adams, c'est un révolutionnaire, Samuel Adams. C'est-à-dire, c'est au fond, il pense que la révolution va prendre de l'ampleur et que ça aboutira à l'indépendance. Les gens de l'extrême droite pensent aussi qu'ils vont gagner. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais gagné.
Eh bien, ce sera votre dernier mot, où l'analyse devient presque une prophétie optimiste, André Caspi. Je voudrais signaler plusieurs de vos ouvrages, parmi un grand nombre d'autres. En particulier, celui que vous avez consacré, ça nous concerne directement ce matin, à l'indépendance américaine, 1763-1789, qui est paru chez Gallimard en 2001. Votre livre, qui est à la fois une étude générale et un manuel pour beaucoup d'étudiants, très précieux, « Les Américains de 1607 à nos jours », en deux tomes, disponible en point seuil, qui a connu plusieurs rééditions. Et puis plus récemment, l'ouvrage qui s'intitule « Des espions ordinaires », paru chez Larousse en 2009. À propos de l'affaire Rosenberg, d'un mot, rappelez-nous ce dont il s'agissait et comment on peut rattacher l'hostilité aux Rosenberg au sujet d'aujourd'hui.
Les Rosenberg, Julius et Ethel sont condamnés à mort en 1951 pour avoir espionné au profit de l'Union soviétique et, dit-on, pour avoir transmis à l'URSS le secret de la bombe atomique. C'est-à-dire qu'au fond, cela fait partie, dans les années 50, de cette phobie qui envahit les États-Unis à l'encontre de l'espionnage communiste.
Les commies.
C'est-à-dire que c'est vrai que les Rosenberg étaient communistes, c'est vrai qu'ils étaient espions, mais ça n'est pas vrai qu'ils aient transmis le secret de la bombe atomique. Ils ont transmis d'autres secrets.
Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores que nous avons utilisés sur le site internet de France Culture à la page qui est la nôtre, à la page Concordance des temps, et vous pourrez bien sûr réécouter, télécharger cette émission et réagir en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet réalisée par Patrick Molinier avec la collaboration de Meryl Moneghetti et avec aussi notre stagiaire Camille Boulnois, avec Jérôme Bonnetin, Bruno Niewdanski à la prise de son et pour les Archivina, Hervé Evano.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 octobre 2010.